102.3
RLP
Bazar.
Et
vous.
Bazar. Et vous.
Expert en rien, on s'intéresse à tout. Et vous.
Hello mes petits Ouistiti. Bonjour Saturne, bonjour les astres, bonjour la France, bonjour la Dordogne et bienvenue à tous nos chers auditeurs et auditrices d'RLP. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette 4e édition de l'émission Bazar et vous, quand même. Oui, on le sait, nous avons été absents un petit moment, mais bon, c'était canicule, hein. Et qui dit canicule dit ne pas aller s'enfermer dans un studio, mais aller se baigner dans une rivière bien fraîche. Et patience et mère de vertu, cela nous aura permis de vous préparer une 4e émission au top of the pop Montana. Ça veut dire cool. Et bien évidemment, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de mon équipe de zouzou préférés, hein, Thomas et Benjamin. Salut les gars.
Salut.
L'été s'est bien passé.
Ça s'est très bien passé, merci.
Génial, la rentrée n'est pas trop compliquée?
Non, j'ai arrêté l'école il y a pas mal d'années, donc ça va.
Bah moi j'y retourne, justement, là, je refais un cycle primaire, collège, parce que
super.
Je pense que j'ai raté 2-3 trucs.
Donc reprendre un rythme, se lever le matin,
oui.
Aller bosser.
Oui, on prépare mon petit goûter pour que j'aille à l'école.
Ça demande de la motivation quand même, et beaucoup de courage pour certains de dire par exemple au revoir à son lit tous les matins.
Pourquoi tu me regardes?
Mais les gars, vous savez ce que j'aime faire, moi, à la rentrée?
Non.
Pour me remonter le moral, pour me redonner une direction, tu vois, pour me rassurer, pour mieux me comprendre et appréhender cette rentrée avec sérénité, eh ben, c'est lire l'horoscope.
Ah.
D'ailleurs, j'ai celui d'aujourd'hui sous les yeux.
Quelle coïncidence.
Là, tiens, par exemple, toi, Benjamin, c'est quoi ton signe?
Moi, c'est Lion.
Alors, Lion, amour, vous allez aujourd'hui faire 3 rencontres. À vous de choisir, mais n'oubliez pas, l'amour de soi vaut mieux que donner de l'amour à l'autre et souffrir de rejet. Santé. Vous avez envie de dormir aujourd'hui, c'est bien. Écoutez-vous, une bonne sieste vous fera le plus grand bien à vous et aux autres. Argent. Vous êtes riche intérieurement pour le plus grand bonheur de votre entourage. Conseil du jour. Buvez du jus de citron, votre estomac et votre foie vous remercieront.
Très bien, j'en prends bonne note.
Et toi Thomas, c'est quoi ton signe?
On va s'ennuyer parce que c'est Lion.
Ah, c'est marrant.
Ah, t'es dans la merde,
je... Non, mais c'est marrant parce que j'en ai un autre qui est différent. C'est le Lion 2.
C'est vrai qu'en fonction des calendriers, je suis Lion 2.
Alors, amour, il se pourrait que quelqu'un essaie de vous charmer, ne vous laissez pas faire et repoussez ses avances. Santé.
Enlève ta main, Benjamin.
Oh, ça va.
Santé. Manger du poisson permet de diminuer le stress. Argent. Vous travaillez dur pour pas grand-chose. Continuez. Et le conseil du jour, ne vous laissez pas influencer, mais influencer.
C'est tellement profond.
C'est génial, non? Moi, j'ai vu mes journées changer, hein, mon quotidien s'alléger depuis que j'applique ces petits conseils. Mais pour l'heure, ce qui va être génial, c'est notre sommaire. Hein.
C'est un DJ transition.
Petite transition. Et oui, comme d'habitude, on ne va pas s'ennuyer. Hein, ce n'est pas le but ici. Non. Dans un premier temps, nous retrouverons notre cher, tendre et doux Thomas pour un moment famille. Puis l'aventure continuera dans le monde merveilleux et surtout cinématographique de Benjamin le petit malin qui abordera la censure au cinéma sans se censurer, j'espère. Et je terminerai comme à mon habitude cette émission par un micro-trottoir sur un métier dont vous saurez tout en fin d'émission. Et comme c'est la rentrée, nous arrivons avec de nouvelles surprises qui viendront ponctuer tout ce beau programme. Alors les amis, n'hésitez pas à monter le son car c'est parti.
Bazar.
On commence donc avec la chronique de Thomas, chronique famille. Mon cher, je te laisse la parole tout de suite après le jingle.
Tu ne m'appartiens pas. Je suis, pour une raison que je ne comprends pas, à tes côtés comme ton père. Et c'est un grand challenge pour moi aussi tous les jours. Je t'aime.
Eh ben bonjour à vous, mes petits révolutionnaires.
Bonjour.
Aujourd'hui, encore une nouvelle chronique. On va parler famille. Alors, le but de ces chroniques, que vous reconnaîtrez grâce à ce jingle poignant, est de parler de tout ce qui touche de près ou de loin à notre espace intime, familial. Pour cette première, je vais partir d'une intuition. Parler un peu au nom de ma génération et celle d'après. En gros, les 15-35 ans. Voilà. J'ai l'impression d'observer un décalage, disons, idéologique entre parents et leurs enfants de nos générations. C'est-à-dire toi, moi, nous, vous, etc. Les millennials, ainsi que la génération Z. Alors, génération Z, c'est un terme sociologique. Hein. Je ne vous parle pas là d'une notoire caricature de Gargamel. Millennial Génération Z. La première étant celle qui a vu et vécu la transition numérique. Donc ça, c'est années 80-90. Et l'autre étant celle qui est directement née dedans. Ça, c'est la génération Z. Ça, c'est années 2000. Bon, ce que je vais vous exposer là fera sûrement écho aux autres générations, à tout le monde en gros. Je pense qu'un décalage se fera toujours ressenti entre les parents et leurs enfants. D'une part pour le saut générationnel entre eux, et d'autre part la tendance conflictuelle, disons naturelle, entre parents et enfants. Moi, je vais rester sur ce que je connais, c'est-à-dire ma génération. Les millennials. Vous n'êtes que des millennials. Avant de rentrer dans le vif du sujet et détailler quelques points sociétaux qui vont venir alimenter ce malaise générationnel, on va reposer quelques bases et faire de la sociologie. D'abord, quel est le rapport entre famille, notre famille, là où on est, et la société au sens large? Plutôt, quels sont les liens entre les deux? Première chose, un des rôles de la famille, c'est de sociabiliser, faire entrer l'enfant dans la société, lui trouver une place. Deuxième chose, le libéralisme philosophique et économique de ces dernières années, ces dernières décennies même, va venir transformer la famille. Elle était d'abord traditionnelle pour devenir aujourd'hui moderne. Traditionnelle, moderne au sens sociologique. Traditionnelle, c'est-à-dire des individus semblables, des croyances communes, des coutumes. L'individu aura du mal à faire entendre sa voix à lui si elle est trop en désaccord avec le groupe, la famille, la société. Le mariage prône. Il est parfois arrangé, il est souvent économique. On fédère la famille, le groupe famille avant tout. Moderne. Sous l'influence de la pensée libérale, on autonomise l'individu, c'est-à-dire on lui dit qu'il doit penser par lui-même. On le pousse à être lui-même, à se démarquer. Chaque voix compte. Tendance à la démocratie. Le mariage économique s'éclipse devant le mariage d'amour. On choisit son conjoint, sa conjointe, son genre, sa sexualité, etc. On est alors sur un double jeu. La famille intègre ses enfants dans la société, et cette même société va influencer la famille. Et la famille va intégrer ses enfants influencés, etc. Le cycle recommence. Rien qu'avec cette histoire de famille tradi, famille momo, ça devrait parler à une partie des gens de ma génération. Ou dans l'idée, on va avoir un modèle de famille de la part de nos grands-parents, qui sent le tradi. Le modèle que nous, on a connu, nos parents, un mix entre tradi, momo. Et nous, du coup, un peu paumés là-dedans. Ok, revenons un petit peu sur la question de base. On a compris que la famille a là un rôle d'intégration et que la société, l'environnement autour de nous, influence notre famille. Maintenant, quels sont les points, les facteurs, les trucs présents dans notre société actuelle qui vont venir alimenter cette sensation de décalage entre les générations? Premier point, la manière de s'informer. La confiance en baisse aux médias dits traditionnels, télévision, radio, presse écrite. Deuxième point, une montée du confusionnisme. Alors ça, c'est un mot que je vous conseille de retenir, car pour moi, c'est le plus marquant de notre époque là, tout de suite maintenant. C'est l'effet secondaire de la libéralisation des médias d'information. L'individu, toi, moi, perdu dans l'océan de ses offres d'information, on se met à douter de tout. On reparlera du confusionnisme, je vous le jure. On continue la liste. Troisième point, un monde du travail bouché. On est d'une génération plus diplômée que les précédentes. Mais les places sont rares, une fois sur le marché du travail. De plus, le travail peut être sous-qualifié par rapport à notre bagage culturel. Hein, bullshit job, ubérisation du travail, entrepreneuriat à tout va. Quatrième point. Avec l'avènement d'Internet, un culte de la personnalité. Instagram, TikTok, les injonctions au corps, les injonctions aux apparences. Cinquième point. Nous sommes les enfants du libéralisme. Difficulté à s'organiser, à s'unifier, à s'entendre. Quand l'individu est ainsi sommé de se réaliser par et pour lui-même, il aura du mal à voir l'intérêt général, ce qui est au-delà de lui. Tous les points non exhaustifs que j'ai nommés ne vont pas forcément être dans toutes les têtes, dans toutes les bouches, des protagonistes de nos générations, celles d'avant et puis celles d'après. Là, je parle d'injonctions indirectes. Elles viennent du haut pour aller vers le bas. C'est-à-dire présentes dans la société, plus ou moins flottantes, et vont venir influencer les individus, les gens, dans leur famille. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, je pense qu'être conscient qu'il va y avoir des mécanismes qui vont venir influencer nos idées, avant nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on ne va pas s'influencer tout seul. On est influencé par ce qui nous entoure, ça permet de relativiser quand tu vas entendre des discours en face de toi qui te un peu t'horripilent les poils des fesses. De « Ah, tu dis ça, ça m'énerve », et tout de suite, je sais pas, je gueule, je t'embrouille, on se tape dessus, c'est essayer de te dire, ok, la personne qui est en face de moi, elle tient ce discours parce qu'elle a forcément un environnement qui l'a amené à penser ça. Hein, tu n'es pas comme ça en te disant, tiens, je vais être monarchiste. Non, tu deviens monarchiste parce que ton environnement direct est propice à ce que tu le deviennes.
Oh, bah tiens, et si j'étais un gros raciste?
Non, tu deviens raciste parce que ton environnement direct, tes raisonnements vont t'amener à l'être. Je suis pas en train de te dire que c'est bien. Hein. Mais ça te permet au moins de relativiser, de moins te dire que c'est des combats d'ego, que c'est des combats contre des gens. C'est de détacher la personne qui est en face de toi et le discours qu'elle veut avoir. Tu veux démonter ce que dit la personne, intéresse-toi au discours, lui démonte pas la gueule. Et je pense que dans les familles, l'intérêt, c'est aussi te dire, ok, ils ont une génération, il y a eu des idées, il y a eu un vécu, ça les a amenés à penser ça. Ça veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais si tu essaies de comprendre d'où ça vient, il y a peut-être moyen de gratter un petit peu dessus. Voilà. J'ai fini, ça a duré 20 ans.
Confuse.
Est-ce que vous vous sentez confusionné?
Merci, I'm less confused. Ben, merci Thomas pour ce moment cocoon famille confusée. Et c'est le moment de faire une pause, surtout vous les cancers qui êtes en train de saturer en ce moment. Il est temps de penser à vous, de respirer avec cette petite page de publicité.
R.L.
Ouais, flibustier, vous n'avez pas peur de la houle? Vous recherchez l'aventure? Vous aimez les moules et la panure? Par ma barbe, goûtez alors à mes croustimoules!
Croustimoules!
Une succulente moule, moelleuse et fondante, enrobée d'une panure croustillante, frite avec amour! Nom d'une jambe de bois, c'est un régal. Pour Croustimoule, moi je vends mon boule.
Et on enchaîne avec la chronique de notre Benjamin Malin sur le cinéma. Benjamin, c'est à toi, tout de suite après le jingle.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage.
Cinéma.
Mash-up de la bouillie de cinéma.
Bouillie.
Je trouve ça tout à fait bouleversifiant.
T'as chaud au dos.
Ça veut dire bonjour en langage Benjamin.
Oui, c'est comme ça que je vais commencer, du coup. Bonjour.
Salut.
Vous allez bien? Comme nous l'a dit Lisa tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de censure au cinéma.
Oh.
Si je vous dis censure, vous me dites quoi?
Soulever la jupe des filles, on peut pas voir.
C'est pas les trucs qui te collent, là, qui restent collés à toi quand tu vas te baigner dans des lacs?
Exactement. Et, et donc la censure en France, on peut la dater d'à peu près 1909, de manière officieuse. En fait, c'est suite à une quadruple exécution capitale à Béthune, la petite commune de Béthune, qui a été filmée et diffusée, que les maires et les préfets ont un peu pris le contrôle des diffusions des films qui allaient être projetés dans leur ville ou leur région. Et donc c'était à leur bon vouloir, c'était eux qui décidaient de s'ils allaient censurer ou pas le film. C'est seulement à peu près 8 ans, 7 ans plus tard, qu'une commission de censure va être créée, donc quelque chose d'officiel, de légal, pour contrôler donc la diffusion et la censure des films. Et notamment une loi qui va s'appeler le code ICE, qui va, comment dire, contenir tout un tas de critères qui ne passeront pas si on les voit à l'écran. Ça va être la nudité, évidemment, les scènes de violence, les scènes blasphématoires. Ce code AS va être appliqué pendant très longtemps, c'est-à-dire des années 34 à 66. Beaucoup de films vont en faire les frais, notamment Un tramway nommé Désir, adapté de la pièce éponyme, sortie en 1951.
Traveling wears me out.
Well, take it easy.
It's
not those cats.
Ce sera tout bonnement 4 minutes du film qui seront coupées sans prévenir le réalisateur. Parce que Un tramway nommé Désir aborde tout un tas de thèmes qui étaient évidemment très provocateurs, on pourrait dire, ou tabous en tout cas à l'époque. C'est plus un dialogue en fait, qui va être censuré, où c'est l'une des deux protagonistes qui va parler de son époux qui a été tué et qui s'est suicidé à cause de son homosexualité en fait. Et ça, pareil, c'est un sujet un peu trop tabou à l'époque pour que ça devienne vraiment une séquence du film, quoi. Normalement, c'est un truc autour de laquelle la pièce s'attarde un peu plus, mais c'est un peu balayé dans le film, quoi. Il y a une forte influence religieuse derrière ces comités qui se forment, qui sont issus de groupes ecclésiastique, très virulent, assez dur, quoi, très conservateur. Mais on peut citer aussi Psychose, sorti en 1960. Et on pourrait croire que c'est notamment à cause de la scène de meurtre sous la salle de bain que le film a subi le plus de censure, mais c'est pour un truc un peu plus absurde, en tout cas qui ne pourrait pas être absurde à nous aujourd'hui, mais c'est Hitchcock qui a dû batailler pour que sur un des plans du film, on en voit des toilettes apparaître. Et donc il a dû batailler contre le comité de censure pour leur dire « Non, mais je vous jure, il n'y a rien de vraiment blasphématoire, d'obscène là-dedans, quoi. » Évidemment, bon, il y a la scène de la douche qui a été un peu censurée, notamment des bruitages qui ont été enlevés, des scènes de nudité, mais que Hitchcock avait déjà anticipé, donc il avait déjà fait en sorte de ne pas filmer complètement nulle actrice. Certains plans ont été recadrés, retouchés, pour que ça soit encore moins suggéré, quoi. Et ça n'a pas empêché le film d'être un énorme carton, voilà. Donc là, on voit que la censure, en fait, s'attaquait surtout au ce qu'on appelle aux bonnes mœurs, quoi. Mais il y a aussi un aspect politique à la censure. Notamment, on peut parler du documentaire Nuit et brouillard, sorti en 1956, qui parle de la déportation.
Pendant ce temps, Burger, ouvrier allemand, Stern, étudiant juif d'Amsterdam, Schmulski, marchand de Cracovie, Annette, lycéenne de Bordeaux, vivent leur vie de tous les jours sans savoir qu'ils ont déjà, à 1000 km de chez eux, une place assignée.
Et sur l'un des plans de ce documentaire, on peut voir un gendarme français, donc, surveiller un camp. Et ça, c'est quelque chose qui a fait un gros scandale. Surtout, c'était pas si longtemps que ça après la fin de la guerre. Et les censeurs ont exigé de couper cette scène au montage pour la diffusion en France, du moins. Un truc qui peut paraître un peu étrange aujourd'hui, c'est que beaucoup de films étaient classés X, c'est-à-dire moins de 18, mais qui n'étaient pas des films pornographiques. Notamment le film Mad Max de George Miller, sorti en 80, a été classé X en France pour ses scènes de violence. Quand on voit Mad Max aujourd'hui, on pourrait se dire que moins de 18, c'est un peu violent. 2 ans après la sortie du premier Mad Max, et donc pour la sortie de Mad Max 2, la classification des films se fait par âge, en gros. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, donc les moins de 12, moins de 16, moins de 18. Le fait de les catégoriser comme ça par autorisation d'âge, ça va être une forme de censure économique. Et c'est seulement 8 ans plus tard, le premier passera à moins de 16, puis en 2015 à moins de 12. C'est marrant cette progression. Juste sur un film comme ça, où on peut voir comment il a été totalement censuré dans le pays, puis classé en moins de 18, puis en moins de 16, puis en moins de 12, jusqu'à être considéré comme arrêt essai, quoi. Donc quelque chose qui fait partie du patrimoine...
Et jusqu'à passer sur midi les zouzous.
C'est ça, quoi. Et donc voilà, c'est au fur et à mesure des années, quoi, comment le cinéma a lutté, s'est battu pour avoir, un espace de liberté d'expression un peu plus large, même si ça reste compliqué encore aujourd'hui. Par exemple, l'un des films qui avait fait scandale en 2000, c'était le film Baise-moi, de Virginie Despentes.
La mobilisation autour du film de Virginie Despentes, dans un premier temps, le film avait obtenu son visa d'exploitation assorti d'une sévère mise en garde pour les spectateurs et d'une interdiction au moins de 16 ans. Mais le Conseil d'État, saisi par l'association d'extrême droite Promouvoir, a jugé que le film devait être classé X au nom de son caractère pornographique et au nom des incitations à la violence qu'il contenait.
On pouvait voir des scènes... simulé. Et donc il y a eu tout un tollé parce que c'était pas à proprement parler un film X pornographique, parce que c'était pas le but du film de seulement montrer ces scènes, il y avait tout un scénario, une histoire, un propos derrière. Mais le film a quand même été classé X suite aux protestations d'un groupe à tendance extrême droite qui s'appelle Promouvoir, très tourné vers l'église, qui a fait tout un tas de poursuites, de recours en justice pour interdire un paquet de films, dont celui-là. On en revient à ce truc, voilà, de bonnes mœurs, de choses qu'on peut montrer ou pas, de juste dire que voilà, la censure, qui était très contrôlée à l'époque par l'Église, l'État, se restreint de plus en plus, on laisse de plus en plus de liberté, en gros, aux metteurs en scène, mais elle reste quand même toujours un peu présente, notamment par ce qu'on appelle un peu, ce qu'on pourrait appeler la censure économique. C'est-à-dire que les films plus grand public, en gros, vont bénéficier de plus grands financements pour voir le jour. Les films de genre restent encore à ce jour les films qui bénéficient du moins de soutien financier et donc subissent en quelque sorte une sorte de censure, quoi. On en reste à à vouloir favoriser des films tout public, familiaux, qui correspondent...
Pas de risque, quoi.
Ouais, c'est ça, quoi. Où il n'y a pas vraiment de vrai parti pris, d'audace.
C'est le censurisme.
Je reviens vite fait sur le côté religieux, quand même, parce que j'ai pas assez insisté là-dessus, mais c'est vrai que les groupuscules religieux vont vraiment insister très fort pour que plein de films, en gros, ne soient pas diffusés, parce que considérés comme anticléricaux, blasphématoires, anti-moraux, enfin, immoraux, pardon. Je sais qu'il y a un film qui avait vraiment fait beaucoup scandale à l'époque aussi, c'était Salo et les 120 jours. Moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas trop en parler, mais je sais que Thomas le connaît un peu.
Moi, je l'ai vu.
Et oui. Et voilà, je sais pas si tu veux en parler vite fait.
Salo. C'était Pasolini,
ouais,
qui a réalisé ça.
Tout est prêt selon vos désirs.
Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur.
C'est un réalisateur italien un peu, un peu hardcore. En gros, c'est quatre grands bourgeois italiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils profitent que l'État y soit totalitaire pour aller se balader dans les campagnes et sélectionner 10 jeunes hommes et 10 jeunes filles. La première partie du film, c'est Star Academy. Ça, on prend vraiment les plus frais, quoi, selon leurs critères. Deuxième partie du film, on met tout ce joli monde dans un grand manoir. Et pendant tout leur séjour au Club Med des grands bourgeois, ils vont leur mettre la misère. Bah alors, la misère avec un M majuscule, je te laisse même pas imaginer. Enfin, ils sont arrivés 20, ils ressortent, je crois qu'il n'y a plus personne à la fin. Enfin, ils sont tous finis en saucisse, enfin voilà. Et la gueule des bourgeois là-dedans, des quatre mecs, oh là là, t'en as un, il a une tête, une manière de parler.
Il n'y a rien de plus désagréable qu'une haleine dépourvue de toute odeur.
Ça, c'est le genre de réplique que t'as dans le film.
Allez, tiens, mange pour cette folle nuit d'amour qui nous attend.
Donc, en gros, ça... t'as aussi des scènes où tu les vois philosopher, parler de grands auteurs, où ils sont très inspirés. Pour, en gros, assouvir leur pulsion sexuelle.
C'est le moment de mettre fin à tout ça.
Est-ce qu'on va se censurer, là, pour le moment ?
Oui, là, on va censurer. Mais en tout cas, merci, Benjamin, c'était fort intéressant.
Ouais, vraiment censure, pas de quoi.
Sans censure, c'est le moment de vous proposer le micro-trottoir.
Micro-trottoir de Lily. Vous posez la question, répondez.
Ah, mais juste pour savoir, c'est quoi le sujet ?
La paix qu'il faudrait.
Le jeudi soir et le samedi soir.
Alors, je lève la rue, là.
Mes petits Wistiti Doudibou, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été simple d'écrire cette chronique. Et oui, l'horoscope m'avait prédit un manque d'inspiration, une désorientation, une page blanche et surtout une incapacité totale, complète et entière à choisir un sujet de chronique. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment ramé pour trouver le sujet. Mais après avoir traversé les 15 continents, m'être noyé dans les 12 océans, rampé dans le désert, repris des forces avec un bol de noix de cajou, m'être pris la forêt de Brocéliande en entier dans la tête, être parti d'un point A vers un point B pour en fait partir du point C vers le point A, j'ai enfin choisi de prendre la direction opposée. Vous y comprenez rien ? C'est normal, vive la rentrée. Et sur les conseils d'un vieux sage, n'oublie pas qui tu es. C'est là que j'ai eu le déclic, en fait. Et oui, qui dit rentrée dit parfois nouvel emploi du temps et nouveau boulot.
Doucement avec les portes.
Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Ils déménagent quoi, sérieux ? Vous avez deviné le métier ? Eh oui, je suis depuis la rentrée de septembre 2022 à ED. Je me suis dit que parler de ce métier dans cette émission pouvait lui faire honneur, c'est un si beau métier. Que du bonheur. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un AED ?
Comment t'appelles un assistant d'éducation, toi ?
Un pion ou un surveillant.
Mais pourquoi t'appelles ça un pion ou un surveillant ?
Parce que quand je suis arrivé en seconde, ceux des classes au-dessus appelaient ça comme ça.
Et qu'est-ce que fait un AED ?
Ça dépend. Avec les retours que j'ai, il y a les différents pions que j'ai vus vous servent un peu à tout.
Bon, ça n'a pas l'air très clair dans la tête de nos chers élèves, et mes collègues peuvent-ils m'en dire un peu plus concrètement ? Qu'est-ce qu'il fait un AED ?
Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de tâches et qu'on soit autant sollicité. Il y a beaucoup de tâches administratives, le recueil d'informations, le téléphone, la surveillance dans le réfectoire, dans la cour.
Et pour être un peu plus précise, l'assistant d'éducation, parce que AED c'est assistant d'éducation, chargé de la surveillance et l'encadrement des élèves, il est polyvalent et travaille en étroite collaboration avec l'équipe éducative composée par le CPE, conseiller principal d'éducation, les professeurs et l'ensemble du service administratif.
et des intervenants dans l'établissement qu'il emploie, donc avec un peu tout le monde. S'il doit savoir faire preuve d'autorité lorsque cela est nécessaire, l'assistant d'éducation doit aussi être bienveillant et savoir observer les élèves tout en étant à leur écoute. Il est généralement le premier membre de la hiérarchie de l'établissement vers lequel ces derniers se tourneront s'ils ont un problème. Voilà, c'est ce métier que j'ai commencé cette année. Et tu vois, moi, quand je commence quelque chose de nouveau, j'ai vraiment envie de bien le faire. Donc je me suis posé la question de savoir comment être une bonne assistante d'éducation. Et le mieux pour nous répondre, c'est qui ? Bah, c'est notre ami Internet ! Donc, j'ai cherché. Et il m'a répondu. Gardez votre calme en toutes circonstances. S'énerver ne peut qu'envenimer les choses là où le calme contribue à désamorcer la situation. N'émettez pas de jugement de valeur sur les élèves comme par exemple « tu es débile ». Ne jugez que les actes. Donc se faire respecter en les insultant de ce gag, on n'a pas le droit. Merci à Google d'éclairer ma lanterne. Ok. Bon, le mieux, je pense, c'est d'aller se renseigner sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils en pensent, mes collègues ?
À l'écoute. À l'écoute, que ce soit à l'écoute des parents, des professeurs, du personnel et surtout des élèves. Polyvalent. Patient.
Ah bah, se rappeler qu'on est dans un processus éducatif et être bienveillant envers eux, en fait. Simplement, comme on serait bienveillant envers nos enfants à nous, quoi.
Et nos nouveaux collègues.
Pardon ?
Savoir être à l'écoute est une qualité demandée et qui revient, selon mes collègues, pour être un bon AED. Et qu'en est-il du côté des élèves, de ceux qui reçoivent le cadre ?
C'est quelqu'un qui est un peu juste. C'est quelqu'un qui sait faire la différence entre l'erreur bien et l'erreur un peu idiote. C'est-à-dire... tu casses un truc parce que tu veux le casser ou tu casses un truc parce que t'as pas fait exprès.
Et qu'est-ce que tu aimerais trouver en qualité chez un pion, si tu avais le choix ?
La compassion.
Quelqu'un comme toi, quoi.
C'est quoi quelqu'un comme moi ?
Le sympa.
Nos chers élèves semblent vouloir être écoutés et demandent également à partager avec leurs surveillants. Mais est-ce toujours simple d'être à l'écoute quand ils poussent un petit peu ?
Et vraiment, ça dépend des moments, ça dépend de mon humeur, ça dépend de la journée qu'on a eue aussi, malheureusement. Mais c'est comme ça.
Je m'attendais pas à avoir autant de patience. Je me suis découvert de la patience.
C'est vrai que parfois, ils mettent nos nerfs à rude épreuve. Et même dans ces moments, on se doit de rester droit, à l'écoute et juste. Et ça vous donne pas envie de connaître leur avis sur ce que pourrait être un mauvais AED ?
Quelqu'un qui est un peu bête et méchant et qui écoute pas quand quelqu'un a des problèmes ou qui écoute pas les raisons de l'erreur.
C'est quoi pour toi bête et méchant ?
Bah, c'est-à-dire, par exemple, tu fais une erreur, mais parce que... tu fais une erreur, tu fais un truc pas bien et le gars il va pas t'écouter, il va te mettre une sanction, point barre.
Qu'est-ce qui pour toi définit un mauvais AED ?
Oui, voilà, ceux qui arrivent en retard et qui ensuite nous engueulent parce qu'on arrive en retard.
Quelqu'un qui sanctionne direct sans forcément, ben comme les petits à l'école, hein, si on leur fait pas comprendre pourquoi on les sanctionne.
Ouais, c'est vrai que ça mène...
Bah, c'est contre-productif. Ouais.
C'est très intéressant d'entendre qu'ils ont envie d'écoute et de partage avec leurs surveillants, alors que parfois on a juste l'impression qu'ils veulent te faire tourner en bourrique, là, et t'en foutre plein la gueule, et qu'ils s'en foutent de toi.
Non. S'il te plaît, tu le reposes.
Attends.
Merci.
Vas-y.
Non, mais ça suffit.
Ah, et la patience. Beaucoup de patience. Mais alors, pourquoi fait-on ce métier ?
Parlons de la paye.
Ah bon, bah c'est un SMIC, quoi, ça va. Évidemment, on aimerait un peu plus dans certaines situations quand on a des élèves un peu compliqués à gérer ou quoi, mais bon...
Et c'est pas pour l'argent, mais plutôt pour tout ce que l'on peut partager avec ces filous quand ils ne font pas les ouaves. Et savoir que l'on a, à un moment donné, au détour d'une discussion, d'une confidence, ouvert un peu leur façon de voir les choses, ouvert des perspectives d'avenir, ou bien avoir été une oreille attentive dans les moments où ils se sentaient perdus. C'est aussi et surtout ça, ce métier.
Être heureux, quoi.
C'est vaste comme concept, ça, être heureux.
Par exemple, pour moi, être heureux, c'est être avec mes potes, c'est faire ce que j'ai envie de faire. Hein. Tu
c'est
vois
plutôt relation
sociale.
Par
exemple, voler, faire du piano, faire ce qui me plaît, en fait.
Ouais.
Savoir que l'on a un poids dans leur éducation et que par ce biais, c'est une porte à la transmission de certaines valeurs qui nous paraissent importantes, ben moi, ça me remplit de joie et d'entrain à chaque fois que je vais travailler. Et me fait considérer ce boulot comme une très belle expérience humaine. Même si la plupart du temps, on a envie de leur tordre le cou. Voilà. Cette année, je suis donc assistante d'éducation.
Bien. Bah écoute, ça a l'air, ça donnerait presque envie. Moi perso, j'ai été pion pendant un mois, ça m'a traumatisé.
Pourquoi ça, mon petit Benjamin?
Parce qu'ils sont débiles.
Mais ils sont gentils,
ils sont adorables. Mais qu'est-ce qu'il y a un âge où ouais, ça se bagarre tout le temps, ça s'insulte. C'est...
Ah oui, oui.
Bah normal quoi. Mais sauf que quand ils sont 70 et que t'es tout seul face à ça, bah c'est compliqué en vrai. Donc franchement, bravo.
On arrive à la fin de cette 4e émission de Bazar et vous. J'espère que vous êtes contents de nous avoir retrouvés, que vous avez passé un super moment. Et mes osios, ils se sont marrés. Hein, ça a été à grosse poilade. Hein.
Ah, ça a été dur.
Surtout confusionnisme.
Confusionnisme.
Ah, j'étais très confusionné, mais sur ma propre chronique. Donc
et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, des bisous.
Bisous.
Ciao. Ciao. Ciao.
Bah, bizarre.
Oh.
Et vous.